On la montra, tu dis.
Ouais, après je la montrerai.
On la mettra sur.
Je suis pas sûr que le son soit au top. Sur ton ordi, c'est toi qui sais.
On fera avec, hein, de toute façon.
Ouais, voilà.
Je double avec un
Allez.
Enregistrement audio.
Ça marche. Ah, tu l'as lancé là ?
Ouais,
on est bon.
Ouais,
Top ! C'est bon.
C'est rouge, hein ?
Ah, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon.
Bah, il est où le temps ?
En bas.
Et c'est parti. Go, je veux dire go.
Allez. Erev Tov, les Koulam. On revient dans notre étude du livre de Shemot et on est arrivé au chapitre Yud, verset Aleph. Chapitre 10, verset 1. Ou alors on peut dire aussi le début de la paracha de Bo. Ou alors on peut dire aussi page 45 pour les livres blancs. Les livres noirs. Ouais, je veux, voilà, pas de discrimination. T'as vu ? Malasse. Top. Alors donc, on est au chapitre 10, verset Aleph. On est toujours dans les 10 plaies. Et bah, on est arrivé à un point, j'ai envie de dire, presque de non-retour. Parce que, ça y est, Pharaon n'a plus grand-chose à dire. Dans les 3 premières plaies, on a montré qu'on était les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on avait hérité de leurs qualités. Et en cela, eh bien, on est légitimement séparable du reste de l'Égypte pour eh bien, mener l'humanité vers la connaissance de Dieu. Pharaon a accepté, certes. Bon, Avraham, il y avait d'autres descendants, pas que vous. Yitzhak également, mais effectivement, Yaakov, c'est que vous. Mais, avait-il dit, nous nous sommes mélangés et c'est vous qui avez voulu ce mélange. Donc on a vérifié ça avec la plaie de Arov, du mélange. On a vu qu'en fait on n'était pas mélangés parce que bien qu'on était en Égypte, on était à Goshen. Et donc ça veut dire quoi être à Goshen ? Eh bien ça veut dire être chez toi sans être vraiment chez toi. Donc non seulement on est les héritiers d'Abraham, mais en plus on n'a jamais été vraiment mélangés à vous. Est venu Pharaon avec un argument en 3 étapes. Mais nous sommes tous des êtres humains. Et je suis, moi, le chef de la civilisation qui domine le monde. En tant que tel, vous ne pouvez pas vous séparer du reste de l'humanité. Et vient Moshe expliquer à Pharaon que, bah oui, mais ça aurait pu marcher si vous étiez toujours détenteur de cette identité humaine. Sauf que vous ne l'êtes plus. Puisque vous avez hérité, sinon on a hérité des qualités d'Abraham, Isaac et Jacob, vous avez hérité des perversions et des chutes morales de l'humanité qui a chuté par 3 fois dans la génération du déluge, génération de la tour de Babel et Sdom et Amora. Sdom et Gomorrah. Le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites. Et donc on a vu comment les 3 plaies suivantes, à savoir Dever, Shechin, Barad, eh bien viennent expliquer cela. Donc, ben, nous ne sommes même, on peut même plus venir comme argument en disant on est tous des êtres humains. Il n'y a plus d'argument comme ça. Et ce qui va amener les mages de Pharaon, les Khartoumim, les sages de l'Égypte, dire, bon ben, c'est bon. Ça y est, on a compris. Donc, de leur point de vue, ils sont prêts à libérer les Béné Israël. Quand on dit de leur point de vue, c'est du point de vue de l'Égypte. Il n'y a plus que Pharaon qui reste et qui campe sur ses positions. L'âme. Eh bien, comme on a dit, Pharaon n'est pas simplement un pantin, non, il a justement son libre-arbitre renouvelé à chaque fois, et Pharaon est un grand bonhomme qui est prêt à admettre, mais à condition qu'on lui ait véritablement expliqué. Et il a encore un argument. Il a un dernier argument qu'il veut faire valoir ici. « Yomer Hashem el Moshe, bo el paro. » Viens, Dieu dit à Moshe, viens chez Pharaon. Lorsque je dis à quelqu'un « Viens ».
L'air.
Alors, l'air, ça veut dire « va ».
Oui, il aurait dû avoir écrit « l'air ».
C'est-à-dire, quelle est la différence entre « l'air » et « beau »?« Va » et « viens », c'est le titre d'un film. Mais au-delà de cela, quand je dis à quelqu'un « va », où je suis par rapport au quelqu'un ? Je suis là où il est et je lui dis d'aller à un autre endroit. Mais si je lui dis « viens », je ne suis pas là où la personne à qui je m'adresse se tient, Je suis là où j'ai envie qu'il arrive.
Où je me trouve.
Je me trouve là où j'ai envie qu'il arrive. Donc si Dieu il dit à Moshe, Bo El Paro, où est Dieu à ce moment-là?
Il est chez Pharaon.
Chez Pharaon. Lama, parce que effectivement, la vérification que va demander ici Pharaon le rattache directement à Dieu. Quel est cette dernière argumentaire, ce dernier argumentaire de Pharaon? Donc il dit, Bo El Paro, qui a ni ichbad de ti et libo vet levavadav le man shiti ototai elle. Bekirbo. Mazé ototai. C'est combien?
Le signe.
Oui, mais combien?
Là, on va s'en produire
10. Ah ben non, on a déjà eu 7 là.
Si on fait référence
au 8. Là, on est à la
8ème
là. Non, non, là, quand il dit ça, quand maintenant il dit Leman shiti ototai. Donc il en reste combien?
3.
Il en reste 3. Donc moi c'est ototai. Bah ot c'est 1. Otot c'est 2. Il n'y a pas le troisième. Nachod. Le troisième, c'est-à-dire le dernier, pour nous le dixième, on va voir qu'il est complètement ailleurs. Et on va y arriver. Donc voilà, il est spécial, on va y arriver. Donc pour l'instant, il y en a encore 2 à mettre en avant. Le man shiti ototai elle bekirbo. Tov. Ou les man tesaper. Alors là, on touche le pompon. Les man tesaper. Beozne bincha. Ou ben bincha. Et asher italalti bemitzraim. Vet ototai asher samti bam. Vidatem ki ani asher. Pour la première fois, il va y avoir. Alors qu'on a dit jusqu'à maintenant que le dévoilement est pour l'Égypte. Pour la première fois, Dieu dit. Oui, mais sache que le dévoilement que j'ai donné à l'Égypte, à un moment donné, il vous servira à vous aussi. Vidatem ki ani Hashem. Et vous saurez que je suis Dieu. Quand?
Pourquoi vous? Tu parles des enfants de Moshe et des petits-enfants de Moshe.
Le man te saper beozne bincha ou ben bincha. Là, il parle à Moshe, là.
Oui.
Oui.
À
tes enfants et à petits-enfants. Certes, pas d'ail, mais sauf que le problème, c'est que dans la Torah, lorsqu'on parle au singulier, c'est pour parler au klal. Lorsqu'on parle au pluriel, c'est pour parler à des individus.
Oui, mais là, c'est un dialogue.
Là, c'est un dialogue clair, tu dis directement à Moshe. Oui, mais regarde. Va me Hashem Moshe, bo el paro, kirbadeti et libo, vet leva del man, chiti ototai, ele bekirbo. Le man te saper, mi. Toi, tu dis, c'est Moshe. Le problème, c'est que, on va voir que ce même commandement va revenir plus tard dans la paracha. C'est vrai que j'ai une information que je ne suis pas censé avoir, parce que c'est un verset qui viendra plus tard. Mais effectivement, et tu le sais aussi, puisque c'est ce qu'on fait tous les ans à Pessah, qu'on a la mitzvah de raconter les saper, beozne binenu, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Et ça nous servira de vidatem ki ani Hashem. Mais pas maintenant. Maintenant, ce qui, moi, me pose problème, c'est que Dieu, ici, est en train de dévoiler sa carte de visite. Il dit, voilà ce que tu vas raconter à tes enfants, à tes petits-enfants. Et qu'est-ce que tu vas raconter? Et ta chère, italalti le mitzraïm. Quoi, c'est tout ce qu'on a à dire sur Dieu? Et si je devais traduire italalti en français, je dirais, j'ai persécuté les juifs, les hébreux, les, non, les hébreux, les égyptiens. T'as vu ce lapsus?
Moi, ici,
il
me dit que je me suis abusé.
Brutalisé, comme tu veux. Bah, dans tous les cas, c'est pas très joli. Ah non, non, là, ils sont trop sympathiques dans ta traduction. Italelout, aujourd'hui, on parle dans hébreu moderne, alors c'est vrai que c'est pas les mêmes hébreux, mais italelout, c'est de la persécution, mamache. Toi, tu dis brutaliser, bon, c'est un peu plus politiquement correct, mais c'est quand même pas le...
Agir sévèrement.
C'est encore plus politiquement correct.
Je vois, il va infliger.
Infliger. Ça va, comme les gens ils savent plus parler le français, alors ils savent plus ce que ça veut dire. Mais infliger, ça veut dire persécuter. Donc, est-ce que c'est ça que j'ai envie de retenir de Dieu? Qu'il est le persécuteur de l'Égypte? Dur, hein? Il y a des religions dans lesquelles le divin est perçu comme étant quelqu'un de très dur, quelqu'un de violent et quelqu'un de persécuteur. Ça existe. Mais quoi, c'est... c'est pas nous.
C'est pas nous, mais c'est peut-être les Égyptiens.
Oui, mais ça, non, mais là, Dieu, il dit, non, Dieu, il nous parle à nous et il dit que c'est comme ça que nous, on doit transmettre à nos enfants.
C'est quoi les biblés ? C'est pas des...
Je dis pas le contraire. Je pose la question, quoi. C'est ça que tu veux qu'on dise de toi ? Tu aurais pu me dire plein d'autres choses. J'aurais pu dire, justement, le man, c'est sa père, Bozne Binra, Ben Binra, un truc qui ne s'est pas encore passé, mais que toi et moi, on connaît un peu, que j'ai ouvert la mer. Ça aurait pu être ça aussi. C'est pas mal aussi. Non, là on te dit demain, ça s'appelle que Italalti Bemitzraim. Quelle est l'histoire ici? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit demander? D'ailleurs, d'après le judaïsme, on perçoit beaucoup plus Dieu comme étant Midat Arachamim plutôt que Midat Adim. Même si on sait que Yesh. Mais on le perçoit comme Midat Arachamim. D'ailleurs, qui nous a appris que les juifs percevaient Dieu comme étant Midat Arachamim? Non. Non. Les chrétiens, ils perçoivent Dieu comme Midat Arachesed. Non. Ça, nous, on le sait. Nous, on le dit souvent. Tu as raison. Mais qui nous l'a encore mieux appris? Eh bien, ce sont les musulmans. Eh oui. Les musulmans ont une perception du divin qui est din. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit la religion en arabe? Non, ça c'est l'islam. Quel est le nom de la religion? Islam, qui veut dire
soumission.
Soumission. Mais je ne te demande pas comment s'appelle la religion musulmane. Je te demande comment on traduit le terme religion en arabe. Din. Din. Ça montre bien leur idéologie. Par contre, toutes les sourates du Coran commencent par une phrase qui n'est pas du tout conforme à cela. Puisque toutes les sourates du Coran commencent en disant par au nom de Dieu le miséricordieux. Mais d'où ça vient? D'où ils ont appris que Dieu est le miséricordieux, puisque toute leur idéologie est passée sur le dîn, mais ils l'ont appris des juifs. Ils ont appris des juifs à Médine que Dieu est le miséricordieux, mais que nous, on veut dévoiler son côté digne. Donc, comment ça veut... C'est ça qu'on demande comme carte de visite à Dieu? Eh bien, la réponse, c'est que oui. Bien sûr que c'est la carte de visite de Dieu, sauf qu'on n'a rien compris à ce que voulait dire le mot « italaldi ». Et c'est ça le problème. C'est qu'on a laissé nos traductions prendre le pas. Et ainsi, on est tombé dans ce que Manitou appelait « traduction égale » trahison, bien sûr. Italalti nous dit Rabbeinu Bechaye, ça ne veut pas dire j'ai persécuté. Italalti, ça veut dire afarti le illa. Italalti. Je suis devenu illa. Mais c'est illa, qui est la choresh, la racine du mot italalti, c'est une cause. Patach Eliyahu Anavi Zechur Lator, dans la Ptirta, Antehu, Dieu il est, Ilata Ilot, Vesibata Sibot. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ilah, c'est une cause. Italalti, je suis devenu la cause. Comprenez bien, en Égypte, les Égyptiens sont polythéistes, bien sûr, ils ont tout un panthéon égyptien. Mais le point commun, c'est que tous les dieux viennent du Nil. En commençant les diplés, en frappant le Nil et en continuant à frapper finalement tous les idéaux de l'Égypte, Ani it alalti. C'est-à-dire que les Égyptiens ont compris que c'était moi, en fait, la cause première. Eux, ils pensaient que la cause première, c'était Ra, ou c'était Nun, ou Net, ou Anubis. It alalti, le Mitzrayim. Donc, c'est pas j'ai persécuté. Je me suis dévoilé à eux comme étant la cause première. Alors là, j'accepte la carte de visite. D'ailleurs, il y a un autre bonhomme.
Comme étant la cause première de leur persécution?
Non, Bichlal. Je domine ce que eux pensent comme étant la cause première. Donc, je suis la cause première. Il y a un autre personnage qui va utiliser ce terme de l'Italel.
Ça veut dire quoi la cause première?
Mais je suis la cause originelle. Qu'est-ce qui est né en premier, l'œuf ou la poule? C'est la poule, mais elle était un œuf. Et quand il les a créés, elle était poule ou elle était œuf?
Non, pas dedans.
Hein? La première poule, il l'a créée poule ou œuf? Comment tu sais, t'étais là-bas?
Non,
j'étais
pas là.
Tu as dit la cause première de l'eau ou du monde?
Du tout, de tout, de tout, de tout. Parce que ma question, en fait, le poule et l'œuf, on s'en fiche. Celui qui a créé, qu'elle soit la poule ou l'œuf, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc il est la cause de toute cause. Ok? Si dans ma vie, tout est cause et effet. Là, je suis là parce que vous avez voulu que je vienne donner cours. Donc la cause de pourquoi je suis là, c'est parce que vous avez voulu. Mais pourquoi vous avez voulu? Parce que je suis venu un jour, par hasard, donner un cours et vous avez apprécié. Et pourquoi je suis venu par hasard? Parce que je suis né. Mais pourquoi je suis né? Parce que mes parents, ils ont voulu me mettre au monde. Et pourquoi ils sont, eux, venus au monde? Parce que leurs parents sont... La cause première, c'est que Dieu, il a voulu créer le monde.
Et le problème, c'est que les Égyptiens n'ont pas compris ce que les Juifs ont compris, c'est que Dieu est la cause du bien et du mal.
Également. Et donc, si tu veux, Dieu leur montre qu'il est la cause première.
J'ai une question.
Oui.
Mais là, c'est un petit peu anticipé, parce que Pharaon, il n'a pas encore reconnu.
Nahon.
Donc, c'est-à-dire...
Bien sûr, c'est anticipé, puisque là, il demande à Moshe de dire au Bnei Israël qu'il va falloir raconter ça. C'est après. D'accord.
Pourquoi il le dit à ce moment précis?
Pourquoi il le dit à ce moment-là? Parce qu'il il donne le programme à Moshe déjà à l'avance, déjà depuis le début du livre de Shemot. Il lui a donné le programme.
Donc Pharaon, il
n'a
pas vraiment...
Non, Pharaon, pour l'instant, on ne lui demande pas à lui de le reconnaître.
Non, non, on dit qu'il a endurci son cœur pour qu'il ait un nouveau arbitre.
D'accord.
Mais comme là, on voit que Hachem, il a son plan... Aussi que
il veut se dévoiler à Pharaon.
Il a pas vraiment
finalement, plan. Pharaon acceptera.
Oui, donc c'est prévu. Donc c'est pas vraiment un choix.
Ah si, c'est un choix. Parce que s'il faut pour qu'il accepte d'une plaie, ça sera en une plaie. S'il en faut plus, ça sera plus. Mais au final, je veux qu'il accepte. C'est comme, si tu veux, dans la Mishnah qui nous dit « Kol Israël eshlahem chelek leolam haba ». Tous les membres d'Israël ont part au monde futur. Et s'ils se comportent n'importe comment? Hein? Alors nous dit le Harizal, Kol Israël, Besofo, Shel Davar, Eshtaim, Chelak, Lolam Haba. C'est au final, tout Israël a part au monde futur. Si ça doit passer par 27 Gilgoulim, ben ça passera. Ok?
Et le problème, c'est que tu oublies de dire que dans la Torah, il est écrit, et voici ceux qui n'ont pas droit au monde futur.
Non, il n'y a pas marqué ça dans la Torah. Ah non. Il y a marqué ça dans la Gemara.
Ah oui.
Et même ceux qui sont marqués qui n'ont pas, la Sugya à la fin, elle leur donne quand même une place par la porte de derrière. Ça. Donc, je disais, il y a quelqu'un d'autre qui a utilisé ce terme. Oui.
J'arrive pas à comprendre quelle différence a-t-il entre les sept premières à côte et les trois dernières.
Je ne sais pas, je ne les ai pas encore vues, les trois dernières.
Non, mais je pose la question. C'est quelque chose de particulier qui est arrivé. C'est-à-dire que je vais continuer à endurcir le cœur de Pharaon et de Vadim. Et après, il passe au... à Pharaon, c'est-à-dire il va distinguer, il va endurcir le cœur des deux, des esclaves, quoi, des serviteurs et de Pharaon, et après il parle de,
d'accord.
Il parle de Pharaon. Et après je mettrai des signes. Quels signes?
On va voir, je ne sais pas encore.
Non mais je veux dire que à ce moment-là donc c'est la distinction entre
il se passe un truc là.
Les serviteurs.
On passe dans une autre sphère où il n'y a que Pharaon qui est si tu veux, l'alter ego de Moshe. Alors, quoi exactement? Deux secondes, on va y arriver.
Alors, le mot signe,
oui.
Siman, simanim, c'est autre chose.
Mazé, c'est hot.
C'est également siman.
Non, hot, mazé, ça veut dire hot.
Hot, je sais pas.
C'est une
lettre.
Enfin,
je voyais
une lettre.
Une lettre.
Quelle lettre il a besoin de dévoiler à Pharaon? Il a besoin de dévoiler à Pharaon les lettres Aleph, Lamed, Hey. C'est ce qu'il dit. Le man shiti ototai, lesquels? Elle est.
Elle est. Ceci.
Ah.
Ça.
Bien sûr que. C'est pour ça que je ne t'ai pas dit ça au début. Au début, je t'ai juste lu le verset tel qu'il est, littéralement tel qu'il veut dire. Maintenant que tu me demandes la question, c'est quoi ces signes? Je t'ai dit, Ot, c'est une lettre. Donc ici, c'est de quelle lettre qu'il s'agit? Il s'agit de Aleph, Lamed, Hey. ok, mais pourquoi, qui que quoi, ma kécher? Eh bien, rappelez-vous comment Pharaon avait perçu Dieu au tout début de l'histoire. Quand Dieu, quand Hachem, Moshe vient au nom de Hachem et lui dit « Laisse partir mon peuple », qu'est-ce qu'il répond?
Je ne connais pas.
Non. Avant. Ni Hachem. Hachem, je m'en colle. C'est-à-dire que pour lui, qu'est-ce qu'il a compris de Dieu? Mi. Les lettres Mem, Veyoud. Il lui manque donc les lettres Aleph, Lamed, Hei pour arriver à Elohim. C'est bon ? Yesh ? Ça va, va ? Mais j'avoue que c'est pas du littéral ce que je viens de faire et que c'est pas notre habitude dans le cours, mais si déjà t'as demandé, alors voilà, t'as gagné. Donc, je disais, il y a un autre bonhomme qui a utilisé cette formulation de l'Eitalel dans la Torah. Remez dans le livre de Bamidebar. Remez numéro 2, dans la paracha de Balak.
Ah.
Non, toujours pas. Bilam.
Bilam, j'ai fait.
Il a dit à son ânesse, Italalt bi. Maintenant, pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle, elle a vu le malar que lui n'a pas vu. Donc elle était plus proche de la cause première que lui. Italalt bi, tu es devenu plus cause que moi. Ok ? Donc, voilà ce qu'on doit raconter. Ok. Vayavo Moshe Aaron el Paro, Vayomru Elav, Kor Amar Hashem Elohe Haivrim, Ad Matai, Me'anetal Le'anot Mipanai, Shalach Ami Ve'yavduni, Ki Me'anetal Le'shaleach, Et Ami. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a dit, quel est l'argument de Pharaon ? On a dit, il doit avoir un nouvel argument. Quel est son argument? S'il ne peut plus dire « on est tous des êtres humains », ça il a vu que non, alors quel peut être son argument? Eh bien les amis, on n'est certes plus au même niveau au niveau de l'être humain. Aval, on est tous des créatures. On a tous été créés par Dieu. À ce titre-là, c'est vrai qu'il y a des vaches, c'est vrai qu'il y a des fraises et il y a des homo sapiens. Vous êtes peut-être des créatures super évoluées par rapport à nous, mais on est tous des créatures. On fait tous partie du plan de la création. Donc, qui te dit que lorsque Dieu a décidé de faire la création, et donc de créer toutes ces choses, eh bien, vous avez la primauté par rapport à nous dans la création. En d'autres termes, son argument, c'est de rejouer la création du monde. Et de vérifier dans la création qui est premier. Ah oui, mais là, c'est quelque chose que Moshe n'avait pas anticipé. Parce que rejouer la création, c'est un argument qui va chercher encore même avant l'être humain. On va rejouer la création. Donc moi, en tant qu'être humain, représentant de l'humanité, j'ai pas de réponse. Et donc, eh bien, il va falloir amener des makotes, cette fois, qui dépassent la dimension de l'humain. Et c'est exactement ce qu'il nous dit ici. Regardez. « Ineni mevi machar arbe bigvulecha » C'est la plaie des sauterelles. Mais regardez comment elle est présentée. « Vechisa eten aretz velo yuchal lirot et aretz ve'achal et yeter apeleta nisheret lachem min abarad » ואכל כל עץ הצומח לכם מן השדה, ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים, אשר לא ראו אבותיך, ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה, עד היום הזה. C'est-à-dire que cette plaie des sauterelles, elle sera bien pire que tout ce que l'homme a déjà vu depuis qu'il est sur la terre. Hein? Y compris avant le déluge. C'est-à-dire qu'on ramène la plaie de Arbé à ce qui se passe avant la création de Adam Arishon. Donc on est vraiment revenu à la création. Maintenant, dites-moi, d'après le judaïsme, Dieu, lorsqu'il crée, il crée à partir de quelque chose ou il crée à partir de rien?
De rien.
Bon, même si rien, ça veut rien dire, mais d'après le concept juif, c'est pas que Yahvé de l'énergie, qu'il a modelé l'énergie.
La parole.
C'est sa parole. Mais c'est ce qu'il y avait à l'extérieur de lui, il n'y avait rien à l'extérieur de lui. Donc c'est-à-dire qu'on appelle ça Yesh Me'ayin. Maintenant dites-moi, le Yesh en question, c'est quand il a créé des choses. Combien de choses il a créé?
Il a créé une chose.
Plein de choses.
Il a créé une chose et son contraire.
Non, il a créé plein de choses. Rien que je regarde dans le début de Bereshit, je vois qu'il a créé plein de choses.
Il a créé plein de choses à partir de rien,
mais
il a créé une chose, et à partir de
ces choses, il a créé... L'Orachouf. C'est-à-dire que d'après la Torah, il a créé plein de choses. D'après la science, du Big Bang, tout est né. Mais je n'ai. Au final, il a créé plein de choses. C'est-à-dire, maintenant, combien c'est plein de choses? C'est une Sophie. Il n'y a pas de limite à la création. Le fait que nous, on aborde certaines choses et pas d'autres, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Plus la science évolue, plus on découvre des choses. Pareil au niveau des êtres vivants. Donc, Bekitsour, la création, elle est par définition infinie. La présentation des sauterelles, elle est infinie. On dit « Verixa et Ena Aretz ». Tu ne vois plus rien de ce qu'il y avait de la création.
Si j'ai bien compris, c'est pour montrer la multitude.
Exactement. D'ailleurs, comment est-ce qu'elle s'appelle la multitude? D'ailleurs, comment s'appelle cette plaie? Arbé. Alors oui, ça ne s'écrit pas pareil que le mot Arbé. Aval, il est évident qu'il y a quelque chose. Pourquoi les sauterelles s'appellent comme ça? Parce qu'elles viennent en nombre. C'est une sauterelle, ce n'est pas intéressant. C'est vrai? Maintenant, d'après le judaïsme, on a dit, la création, elle s'est faite Yesh, Me'ayin. Donc si je reviens en arrière, je passe d'abord par la dimension du Yesh, pour ensuite seulement arriver à la dimension du Ayin. Donc la plaie des sauterelles, c'est le Yesh.
Il y a comme le balancement entre les deux. Que Hachem a créé donc, la terre et le ciel, ex nihilo. Mais après, dans le verset suivant, la terre était tohu bohu. Donc il y a eu quelque chose.
Non, une fois qu'il l'a créée, elle était tohu bohu.
Il y a un
problème de...
Il y a un problème.
Non,
il y a un problème. C'est-à-dire que...
apparemment,
si on prend le texte pour
sortir
les textes, mais...
C'est pas trop compliqué, c'est les deux premiers versets de la Torah. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'aretz.
Ve'aretz haita tohu bavohu. Séparer le ciel de la terre, les eaux de... Bon. Et donc, il y a quelque chose... Avant même la création du ciel de la terre, il y avait quelque chose.
Mais on a déjà, si je ne m'abuse, on a déjà répondu à cela, hein, ton postulat de départ de la question vient à cause de ta mauvaise traduction du mot Bereshit. Parce que tu continues à vouloir t'accrocher à comprendre que Bereshit veut dire au commencement.
Je passe sur Maïmonide, qui laisse entendre...
Attends Maïmonide deux secondes. C'est parce que tu penses que Bereshit veut dire au commencement... que lorsque tu vois le deuxième verset qui te dit « Et la terre était déjà avant Tohu Bavohu », tu te dis « Comment elle a pu être Tohu Bavohu avant le commencement ?» Mais il n'y a pas de problème à partir du moment où tu comprends ce que t'a dit Rashi, c'est que Bereshit ne veut pas dire au commencement. Bereshit veut dire « Pour Reshit, Dieu créa le ciel et la terre, on ne te dit pas quand, sache à partir de là, voilà on t'a donné l'objectif, mais sache que cette terre était... il y a longtemps, avant même qu'on te parle de l'objectif, mais pas avant sa création. Elle était, une fois qu'elle a été créée, tohu bavohu. Ok ? Tout part du problème de Bereshit.
Il a plus raison, c'est que les systèmes solaires de planète, Dieu les a créés à partir d'une énergie qui s'appelle le Or Haganous et qui est une forme de plasma.
Choum d'Ava. Un imitster, je...
Il y a un livre qui s'appelle la Révolution.
Oui, du Rav Zamir Cohen. Oui, je ne suis pas d'accord. Du tout.
Il est rave et c'est un...
Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que... C'est rare, c'est pas un argument. Tu me dis, il est rave. D'abord, moi aussi. Et deuxièmement, lui, il est plus grand que moi, c'est pas le débat. Mais c'est pas parce que quelqu'un est rave qu'il a forcément raison. Ça se saurait. C'est-à-dire, il n'y aurait pas de marlocotte entre les différents rabbins. Comment est-ce qu'on peut avoir une marlocotte entre les rabbins si les deux, ils ont raison? Donc c'est bien qu'il y en a un qui, des fois, n'a pas raison. C'est pas parce qu'on est rave qu'on a forcément raison. C'est Aleph. Moi aussi, hein, je peux avoir tort très, très souvent. Ma femme me dit d'ailleurs que j'ai souvent tort. Donc, la preuve que c'est possible. Donc, c'est pas parce que t'es rave que t'as raison. Ça, c'est Aleph. Bête, Ani Cholek, je suis en marloquette avec beaucoup de choses qui a marqué dans le livre de la Révolution, car bien des choses dans le livre sont fausses, pas forcément au niveau seulement toranique, mais il y a plein d'éléments scientifiques qui sont amenés là-bas qui sont faux au niveau scientifique. Et quand j'ai eu l'occasion, une fois, la chance de rencontrer le Rav Zamir Cohen, et que j'ai pu lui poser la question, il m'a dit que c'est pas lui du tout qui était responsable de la partie scientifique du livre. Je lui ai dit, bah, c'est bien dommage, parce qu'il y a plein de choses qui sont des bêtises. Bon, Zemayesh. Donc, de me parler de Organus, que l'Organus c'est du plasma, je trouve ça absolument pas pertinent. Pourquoi ? Parce que quand on parle de Organus, on parle de dimension métaphysique, et quand on parle de plasma, on parle de dimension physique. Donc ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, et donc je trouve ça dommage d'essayer de faire correspondre les deux. C'est pas la même grille de lecture. C'est-à-dire ? Et d'autre part, le système solaire, les planètes, tout ça, a été créé bien, bien, bien plus tard que le Or du Or Harishon. C'est-à-dire le système solaire est finalement très jeune, puisqu'il n'a que 4 milliards d'années, 4,5 milliards d'années, alors que l'univers en a 13,7. Donc, il s'est passé pas mal de choses avant la création du système solaire.
Et le Big Bang, il a 15 milliards d'années, je crois.
Non, je crois qu'aujourd'hui, on est à 13,7 milliards d'années. Je crois. Bon, on va pas chipoter. Hein.
Si c'est passé plusieurs choses avant la création du système solaire, où est-ce qu'on peut situer ces choses-là qui se sont passées ?
Tu crois où ? Tu parles où ou quand ? Tu parles où ou quand ?
Où ? Mais par rapport aux deux psukim.
Ah, nulle part.
Nulle part.
Ouais. Nulle part. Nulle part, parce que les psukim ne nous apprennent absolument pas comment le monde physique a été créé.
Oui, d'accord.
Donc je ne peux pas les replacer là-bas.
Parce qu'il a dit, comment, Bereshit.
Oui.
Bara.
Oui.
Et ensuite, on nous dit que la Terre était dans un état. Oui. Entre les deux, peut-être qu'il y a quelque chose.
Oui, je répète ce qu'on avait dit au tout début du livre de Bereshit. C'était il y a longtemps, certes. Donc je fais un petit rappel. C'est important. C'est important. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Donc, je répète. Tous les versets, depuis le premier verset du livre de Bereshit, chapitre 1, jusqu'au verset 31, c'est-à-dire les versets de la création, ne nous racontent en rien, mais alors en rien, l'ordre de la création physique, ni le comment de la création physique, mais ne nous parle que du pourquoi de l'idéal de la création. Maintenant, il est évident que des termes sont utilisés qui nous font penser au monde physique. Platon nous aidera à comprendre en nous expliquant qu'il y a deux mondes, le monde tel qu'on le perçoit, et le monde de l'idéal, le monde des idées, un monde métaphysique, qui en fait... Notre monde n'est que le reflet d'un monde supérieur. Nous, on peut comprendre ça de manière beaucoup plus simple. Il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire que notre monde physique dans lequel on se déplace, Dieu l'a créé, mais il ne nous en a pas parlé dans la Torah de comment. Pourquoi ? Parce que ça ne l'intéresse pas. La Torah n'a pas de vocation scientifique de t'expliquer comment les choses fonctionnent. Ça, c'est les scientifiques qui le font et ils le font pas trop mal. La Torah a une autre vocation, c'est de t'expliquer pourquoi. Et donc, on doit maintenant apprendre, comme on l'a fait, expliquer pourquoi chaque élément vient aider au projet de Dieu de se dévoiler dans ce monde. Donc, tu me demandes, la cosmogonie, ce qu'on appelle le mot technique pour expliquer la création de l'univers, des planètes, du système solaire, où est-ce que ça se place dans les versets du livre de Bereshit ? Nulle part. Ce n'est absolument pas mentionné dans le livre de Bereshit. Il y a plein de choses, hein, d'ailleurs, qui ne sont pas mentionnées dans le livre de Bereshit. Un exemple tout bête, les Chinois ne sont mentionnés nulle part dans la Torah. Et pourtant, nous savons de sources sûres qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait des Chinois.
Peut-être qu'ils sont appelés d'un nom, mais pas
le
nom.
Non, ce n'est pas une question de nom. On ne nous parle pas du tout de cette région-là, Bichlal, dans aucun endroit de la Torah. Pareil pour l'Afrique. L'Afrique subsaharienne, on n'en parle pas du tout dans la Torah. Pareil pour l'hémisphère sud, je ne te parle même pas du continent américain. Pour des raisons très simples, Agave, à comprendre, c'est qu'à cette époque-là, les humains qui peuplent le croissant fertile, qui sont la partie, si tu veux, consciente et évoluée de l'humanité, ne connaissent absolument pas l'existence de ces choses-là. Donc, ce n'est pas intéressant de leur parler de ça pour le moment.
Pour revenir à Chemot.
Pardon ? Pour revenir à Chemot. Je pense. Ok ? Ah oui, c'est vrai. Donc, nous sommes revenus à la plaie des sauterelles, qui est là pour nous montrer justement qu'on rejoue le ribouille, la multitude des éléments de la création. Ok. Vaïfen, vaïtsem, im, paro. Verset Zayn. Vaïmbro, avde paro elav. Ad mataye zelanou le mokesh. Shalach et anashim, veyavdou et Hashem Elohim. Aterem teda ki avda mitzraim. Donc l'Égypte a accepté. Mais Pharaon, il dit non. C'est pas possible. Parce que, ok, au moment de la multitude, c'est Israël qui est mis en avant. Mais peut-être qu'au niveau du haïm, du rien, ben là, ce n'était pas encore joué. On a dit c'est yesh, mais haïm. Yesh, on a vérifié. Maïm haïm. Donc ça continue, évidemment. Vayushav et Moshe, et Aaron, et Paro, vayomer aleem, lechou, ivdou et Hashem Elohechem, mi va mi aolchim. Pardon ?
Hashem, il annonce. Il va y avoir
les sauterelles. Hein, quoi, quelque quoi ? Je suis au verset
7. Oui, d'accord, mais...
Qu'est-ce qu'il y a ?
Où est-ce qu'on voit qu'effectivement, après l'annonce, il y a eu les...
Ou Malou ? Ah, tu dis... Ah, où est-ce que c'est, où est-ce que ça arrive ? Oui, ça va arriver, tout le monde. ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה ויאמר אליהם לכו עבדו את השם אלוהיכם מי ומי ההולכים ויאמר משה בנערינו ובזקננו נלך בבנינו ובבנותינו בצוננו ובקרנו נלך כי חג השם לנו ויאמר אליהם יהי כן השם עמכם כאשר אשלח אתכם ואת אפיכם ראו כי רע נגד בניכם לא כן לכו נא הגברים ועבדו את השם כי אותה אתם מבקשים ויגרש אותם מאת פני פרעה סאסס קונאפל un but contre son camp. C'est-à-dire que Pharaon, il n'est pas bête. Moshe, il dit, parce que Pharaon lui dit, bon alors, qui part ? J'ai compris, vous voulez partir, qui part ? Il dit tout le monde. Lama, ki chag Hashem lanu. Chag Hashem, c'est-à-dire, on va servir Dieu. Il dit, ça dire, on va le servir Dieu, ça ne se fait pas avec les enfants. Arrête de te la jouer. Donc, prenez les adultes, les hommes, allez servir Dieu. Si c'est ça vraiment le truc. Non, parce que c'est pas ça le truc. C'est ça. Yomer Hashem el Moshe nete yadecha al Eretz Mitzrayim b'arbe vayal al Eretz Mitzrayim v'yochal et kol esev haaretz et kol asher ishir b'barad v'yet Moshe et Mateu al Eretz Mitzrayim v'yashem nihag ruach kedim b'aretz kol hayom ahu v'chol halayla boker hayah ruach kedim nasa et harbe. ועל הרבה על כל ארץ מצרים, ואנח בכל גבול מצרים, כבד מאוד, לפניו לא היה כן הרבה, כמו הוא ואחריו לא יהיה כן. Voilà, ça montre que c'est pas quelque chose qui se replace dans une épidémie de sauterelle. Il n'a jamais eu comme ça, il n'y en aura plus jamais. ויחס את עין כל הארץ, ותחשך הארץ, ויאכל את כל עשב הארץ, ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד, ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. וימהר פרעה, לקחו למשה ולאהרון, ואומר, חטאתי להשם אלוהיכם ולכם. ועתה, סנה חטאתי אך הפעם, ותדעו להשם אלוהיכם, ואסר מעלי רק את המוות הזה.
לבני ישראל,
ils ont
été
épargnés ici? Certainement. Non, pas d'habitude, c'est dit. C'est dit, pour l'instant, ça a été dit deux fois. Donc tu ne peux pas me dire que c'est d'habitude. C'est-à-dire sur 8, ça a été dit deux fois. Donc de là, on va en apprendre que oui, on ne nous parle pas d'eux, quoi, en tout cas. Vaïtse meim paro, vaïater el Hashem, vaïafor Hashem ruach ke yam chazak, meod, vaïsa et arbe, vaït kaéou, yam asouf, l'onisha arbe, echad bechol gvul mitzrayim, vaïchazek Hashem et lev paro, velo shilach et bene Israël. Parce que j'ai encore mon argument, on a dit. Et est-ce que dans le Haïn, dans le moment où il n'y avait pas encore la création, Yesh Me'aim, est-ce que là-bas dans le projet, au moment de la création, vous nous précédez? Yomer Hashem el Moshe, Nete Yadecha al Hashamayim, Vei Choshech al Eretz Mitzrayim, Vayamesh Choshech. Ce Choshech-là, il est particulier, parce que Vayate Moshe et Yado al Hashamayim, Vei Choshech afela, Vechol Eretz Mitzrayim Shloshet Yamim, Lo Raou Ish et Achiv, Velo Kamu Ish Mitartav, Shloshet Yamim, Ulechol Bene Yisrael Haya Or Bemoshvotam. Là, on te le dit. Maintenant, c'est quoi ce Choshech? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? L'obscurité qui pèse maintenant sur l'Égypte, ben, c'est-à-dire qu'on ne voit pas et on ne bouge pas. C'est-à-dire que c'est une obscurité qui ne fait pas seulement que je ne vois pas, mais qui annule toute vie. On revient en haïn.
Toute action.
Donc on revient au néant. C'est le yesh, on avait vérifié, maintenant le haïn. Ou le chol bene Israël, aïa or, ben moshvotam. Donc là encore, même dans le haïn, on a gagné. Et là, franchement, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Zéou.
Le haïn, c'est avant la création.
C'est de là qu'est partie la création.
Ah, c'est le point.
C'est le point zéro.
D'accord.
Okay,
on ne parle pas d'avant le haïn.
Pas encore.
Non.
Donc là, vraiment, il n'y a plus rien à faire. Zéou. Pharaon, peut-être que c'est bon là maintenant. ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את השם רק צונכם וככם יוצג גם תפכם ילך עמכם בסדר, אלי פחתי ויאמר משה גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו להשם אלוהינו איזה חוצפן זה ידי פרעון פינלמון ידור דימון פחתי תוס אלא ידי נמתן יש פחום רי סאו לבטאי כתו נודן pour qu'on fasse des sacrifices. Mais c'est ça, Moudnik ? Non ! Le but du jeu, c'est Yetziat Mitzrayim. Donc Mitzrayim doit sortir aussi. Il faut que tu participes. Maosim, Vasinu Hashem Eloheinu, Vega Miknenu Yelachimanu, Lotisher Parsa, Kimimenu Nikach Laavod et Hashem Eloheinu, Vanachnu Lonedam Naavod et Hashem, Adboinu Shama. On a besoin de tous nos troupeaux. Vaychazek Hashem et lev paro, velo aval le shalecham. Vayomer lo paro, lech me'alai. Hishamer lecha al tosef reot panai, ki bayom reotcha panai, tamut. Pourquoi? Jusqu'à présent, il était beseder. Il était akshan, mais beseder. Pourquoi maintenant, je ne veux plus te voir? Parce que Mazé, il est dépassé. Il a compris qu'en fait, c'est pour lui. Maintenant que Moshe lui a dit, tu dois me donner toi aussi du bétail, il comprend que c'est pas que pour eux, c'est pour lui. Et il est écarté de l'histoire. C'est terrible. Je ne sais pas si vous mettez un peu à sa place, le pauvre.
Une petite oui. Question avant, on dit que pendant la paix du Rocher, il y avait de la lumière chez les Bébois.
Chez les Juifs.
Et comment tu expliques que les trois cinquièmes, ils ont disparu?
Pas les 3 cinquièmes, c'est déjà les 4 cinquièmes.
Non, c'est les 3 cinquièmes.
4 cinquièmes.
Bon, on ne peut pas chimiser pour un cinquième. Bah. Moi,
c'est vous quand même. Un cinquième de... Ça fait quand même 3 millions de personnes. Bon, ça a l'air. Hein? Non, parce qu'il fait référence à un verset qui viendra plus tard, qu'on est sorti d'Égypte qu'un cinquième du peuple juif. Et donc il dit que les 4 ou 5e sont morts dans la plaie des ténèbres.
Et on dit qu'il y avait de la lumière chez les
Bébois. Mais ça veut dire que, sans rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas pour l'instant ce qui nous intéresse, mais ça veut dire que ceux qui avaient de la lumière, c'est ceux qui sont sortis.
C'est une
interprétation. Bah oui, j'ai dit, pour l'instant on n'en parle pas, on n'a même pas lu les versets.
Non, disons, c'est dans la tête des gens.
Non, c'est dans la tête des gens, c'est Rashi qui a mis ça dans la tête des gens. Mais c'est Rashi, c'est le Kliyakar, mais l'homme chané. Le fait qu'il y ait Rocher et qu'il y a plein de juifs qui sont morts dans le Rocher, il y a plein de commentateurs qui te disent c'est pour que les Égyptiens ne voient pas les juifs mourir, machin. Mais sans rentrer là-dedans. Sans rentrer là-dedans. C'est pas besoin de rentrer là-dedans.
Ah,
ceux qui ont eu de la lumière, c'est qu'ils étaient encore Israël. Il y en a pas mal qui, certainement, avaient déjà cessé d'être Israël depuis pas mal de temps. Quoi, c'est Hadash Lecha, c'est nouveau que tu vois que il y a des fois où des juifs qui se sont tellement assimilés qu'ils ne sont plus juifs.
Israël,
Israël, Israël. Enfin, Israël, mais quand c'est marié avec une Goya, ses enfants, ils ne sont plus juifs.
Est-ce qu'on n'a pas tendance à prendre ce qu'on voit aujourd'hui pour le reporter au commencement?
T'as raison. Il faudrait prendre ce qu'il y avait à l'époque pour en apprendre pour aujourd'hui.
Et au commencement, on pense qu'il y a des gens qui n'étaient pas...
Non, attends, il y a quand même un verset qui te dit Vechamushim alou bene Israël meretz Mitzrayim.
Il
ne
veut pas dire ça.
Il veut dire les deux. C'est-à-dire que si, littéralement en hébreu, ça peut vouloir dire les deux.
Non.
Si.
On verra.
Bah, si. Bah oui, tu verras. Que Chamushim alou bene Israël meretz Mitzrayim, ça peut vouloir dire qu'ils sont armés, bien sûr. C'est le sens premier d'ailleurs. Mais ça peut vouloir dire Chamesh, Chamishit.
Mais c'est deux mots différents.
C'est deux mots différents qui peuvent tout à fait s'entendre.
Les lettres sont les mêmes, mais...
Non, mais ça...
Khamouche, ça ne veut pas dire khamèche.
Mais je suis d'accord avec toi. Mais tu ne peux pas non plus réfuter la même racine. Donc, il y a un lien entre les deux. Et d'autre part, on peut voir également cela dans le texte lui-même. Mais parce comme tu as dit...
Si on prend la racine, on peut trouver plein de mots comme ça qui ont la même racine.
Oui. Je suis bien d'accord avec toi, c'est pour ça que je ne veux pas pour l'instant m'attarder là-dessus. Parashat Béchalach, on n'y est pas encore. Ok, quand on y sera, on y sera. Bekitsour, donc ici, on fait référence au Haï. Paro a compris qu'il était à l'extérieur du jeu et ça, le, bah, ça l'énerve énormément. Parce que c'est pour moi que tu fais, mais tu ne me laisses pas participer. Et c'est terrible. Mais à la sorte. Ah, gaffe, entre parenthèses, une grande partie de l'animosité aujourd'hui non-juive par rapport au peuple juif, c'est à cause de ça. On fait pour eux sans leur demander leur avis. Ça énerve. Tiens, peut-être qu'il est temps de demander leur avis. Moi, je danse ça, je dis ça, je dis rien. Bekitsour, Al Tosef, le Reot Panay, Kibiyom Reotra Panay, Tamut. Yomer Moshe, ken dibarta lo osifod reot panecha. Yomer Hashem el Moshe, od nega echad avi el paro, ve'al mitzrayim acharechen yeshalach etchem mize. Keshalecho kala, garesh yegaresh etchem mize. Ah, il reste plus qu'un truc, plus qu'une. Mais qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être, Bémet? Oui, je sais que tu sais, mais quel argument c'est? Eh ben, Pharaon, c'est un tzaddik. Pharaon, il connaît évidemment les Chadodi. Évidemment qu'il a lu le Chadodi de Rabbi Shlomo Alkabetz écrit au XVIe siècle.
Il connaît la chose.
Mais bien sûr. Et donc, il a vu là-bas qu'il y avait marqué Sof Maase Bemarchava Techila. Donc, il sait que, ok, on a vérifié le Maase. Jusqu'au point zéro. Aval Bamar Shava. Avant la création du monde. Quand Dieu a pensé le monde. Est-ce qu'à ce moment-là, dans la Marshava, c'est-à-dire le Réchit, les prémices, est-ce qu'à ce moment-là, c'est d'abord Israël ou d'abord Mitzrayim? Hein? Et donc, il va falloir vérifier le Réchit. Et donc arrive Makat Bechorot, qui est quoi? Bah, le Réchit. Et oui, on va voir quel Réchit est frappé. Et donc on nous dit ici, d'abord Nabos Neham, Veishalou Ish Meedreu, Veisha Meedreuta, Kle Kesef ou Kle Zahab. Mais c'est qui ces gens-là qui doivent parler maintenant, Moshe? D'abord Nabos Neham. C'est qui? On a l'habitude de dire les Juifs. Veishalou. Ishmet Re'eu. Mais en lecha Re'a, ella Be'uma. C'est-à-dire, quand on parle de ton prochain, c'est du même peuple, de la même identité. Donc, si Aham, c'est les Juifs, ça veut rien dire. Que les Juifs, ils aillent voir leur copine juive, ça ne veut rien dire. Donc, c'est qui Aham? Vous vous rappelez quand on avait dit que Aham, c'était le Erev Rav? On avait amené le Kliyakar, qu'il avait expliqué de manière assez simple que le Erev Rav, il a plusieurs appellations. Il s'appelle des fois Erev Rav, c'est-à-dire, c'est qui ces gens-là? C'est des Égyptiens qui se sont attachés à Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, waouh! On avait dit Gama Ish Moshe Gadol Meod Bene Mitzraim ou Bene Aam. C'est-à-dire que Moshe, il a une aura. Quoi? Non?
Exactement.
Ce
qui est un peu compliqué par rapport à la promesse que Kadosh Baruch Hu l'a fait à Abraham.
Mais non, pourquoi?
Parce qu'il lui a dit que ce serait ses descendants, pas le
Erev. Il leur a pas dit que c'était ses descendants qui allaient demander. Le Erev Rav, il va donner à qui? Non, mais non. À qui ils vont donner ces richesses? À nous. Le Erev Rav, quand il sort, il devient.
Hein? Pourquoi il se donnerait alors?
Mais non, t'as pas compris. Le Erev Rav, quand il sort d'Égypte avec nous, il fait partie maintenant intégrante du peuple juif. Donc, tout ce qu'il a pris, bah, revient dans les caisses du peuple juif. Ça c'est concrètement. C'est-à-dire qu'Am Israël, maintenant, il a récupéré plein de gens avec lui.
Pourquoi ça passe par Israël?
Ah, parce qu'il faut que ça passe par le Erev Rav. Il faut qu'il y ait des Égyptiens, on vient de le dire, qui soient des participants à la Géoula. Et ça devient beaucoup plus clair dans le texte. On te dit d'abord Nabozne à Am. וישאלו איש שמעת ראו ואישה מעת ראו דק לכסף כזה ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. אוי, בסינום פרוקו אילר דנרי. פסק ויתן השם את חן העם. אבידמון. מי זו אקסיפטית? דוני על הרקופה. את חן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. Ah non, non, bien sûr que non. Pour l'instant, il s'appelle que Aam. Pour l'instant, il s'appelle les gens, ce peuple de Moshe, en fait. Ce sont des Égyptiens qui ont décidé d'accompagner Moshe.
D'intégrer le peuple juif ou pas?
Pour eux, ils s'en fichent du peuple juif. Oui, mais ils n'ont pas le choix. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est Moshe. C'est-à-dire la spiritualité qui est générée par Moshe. On va voir d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on aura un problème avec eux, c'est parce qu'ils n'en ont rien à faire de la promesse d'Eretz Israël, du fait de faire partie du peuple juif. Eux, ils veulent une élévation spirituelle. Ou une descente spirituelle.
Ah non, mais hein? À ce moment-là, ils ne sont pas encore intégrés dans le peuple
juif. Ah non, non. Pour l'instant, ils s'appellent, sinon ils s'appelleraient déjà Israël.
Donc, c'est ce que je dis. Donc, la promesse que l'on a faite, c'est quand même que ces descendants sont tirés.
C'est ça. On est là, mais vite. Mais je comprends ce que tu dis, mais je comprends pas le bug. Au moment où ils prennent l'argent, attends. Au moment où ils prennent l'argent, ils sont pas. Ils sont en Égypte. Au moment où ils prennent l'argent, ils sont égyptiens, ils sont en Égypte. On va dire qu'ils sont plus tellement égyptiens, ils sont moschistes. Ok? Sauf que, et on va le voir plus tard, pas aujourd'hui, mais quand Moshe leur envoie le WhatsApp en disant on part, ils partent. Et ils prennent avec eux tout ce qu'ils ont pris. Et tout ce qu'ils ont pris, maintenant, ils prennent avec eux et ils deviennent membres à part entière, qu'ils le veuillent ou pas, du peuple juif.
Ça s'est pas fait au Sinaï, ça?
Ah non. Ah ben non. Pourquoi au Sinaï?
Ah.
Oui.
Il y a quand même un détail qui a été donné, c'est que les Égyptiens les pressaient de partir. Donc ils leur prenaient parti. Alors c'est pas ceux qui partir avec eux, c'est aussi les Égyptiens.
J'ai pas compris. Ouais, j'ai pas compris.
Les Égyptiens.
Oui, ils nous ont pressés de partir à un moment donné. Ok.
Voilà, je les pressais même.
C'est pas encore le cas.
Oui. Mais
là, c'est pas encore le cas.
En les pressant de partir, oui. Je leur disais prenez tout, quoi. Prenez ce que vous voulez. Donc c'est pas des gens qui partaient avec eux.
Qui tiendraient ce
langage.
Je vais utiliser une formulation qui était bien connue. Ouais. C'est pas marqué dans le texte.
Non, on va voir qu'il est pressé.
Il est pressé de partir, ça c'est oui. Mais il n'y a pas marqué, prenez tout ce que vous voulez.
Oui, non mais...
Ah bah, donc je ne sais pas.
Non, mais c'est pas écrit comme ça.
Ah, j'utilise tes armes contre toi. C'est fair play.
D'accord. Et en les pressant, voilà.
J'imagine bien que les mecs, ils n'ont pas eu le temps de faire une liste. C'est sûr.
C'est sûr,
mais J'aimerais. Bon, mais on parle de choses qu'on n'a pas encore vues, mais, ouais, mais je vous fais un spoiler, mais en fait, vous le savez en plus. Les amis, on va le redire la semaine prochaine, mais vous avez bien compris et conscience, ce n'est pas votre premier Pessah, qu'il y a plein de choses qu'on raconte qui ne sont pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est évident qu'on n'est pas parti de manière pressée. Parce qu'on n'est absolument pas pressé, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, dans le chapitre Yud Aleph, Moshe va nous donner toutes les lois et toutes les directives de comment on va partir. Ça fait 4 jours qu'on se prépare. Donc on a le temps de faire les valises. On a le temps de tout bien préparer, de tout machin. Donc de me dire, les Égyptiens nous ont pressés de partir. Oui, mais on était prêts. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin après d'aller en vitesse chercher des nouvelles choses. Oui.
Il leur disait partir.
Oui, mais il leur disait pas prends, viens prendre chez moi des trucs. C'est, non seulement c'est pas marqué, en plus, ça marche pas avec si on veut que tu pars vite, pourquoi tu t'arrêterais chez moi d'abord ? Là, on sait pas encore qu'ils vont partir tout de suite. Donc là, pour l'instant, il y a des Égyptiens qui viennent voir d'autres Égyptiens et qui prennent. C'est un col. Ok ? Va yomer Moshe, ko amar Hashem, kachatzot al laila. Ani Yotze Betor Mitzrayim. Pourquoi est-ce que la Gemara demande pourquoi est-ce que Moshe il a dit Kachatzot
et non pas
Bechatzot
pour tromper l'ennemi.
Pourquoi tromper l'ennemi? De toute façon, ça dépend pas de lui. L'ennemi.
Parce que si le pharaon sait que c'est Bechatzot, ouais, alors... il va poster des soldats.
Mais on parle de quoi? On parle de Maqat Bechorot. Ah, oui. Quel soldat? Et puis il peut poster autant de soldats qu'il veut. Non, non, Kachatzot, parce que justement, dans le verset Dalet. ויאמר משה כה אמר השם קח חצות הלילה. Pourquoi קח חצות? Est-ce que Moshe n'était pas capable de savoir exactement quand c'était חצות? Bien sûr qu'il était capable. Mais
la montre de Pharaon.
Voilà, il voulait pas que la montre de Pharaon elle retarde et que donc à ce moment-là, ils viennent dire ah ben tu mens parce qu'il est חצות à ma montre et c'est toujours pas là. Il dit קח חצות. קח חצות הלילה. אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרוע יושב על כיסו עד בכור השפחה אשר אחר הריחיים וכל בכור באמה. Donc qui n'est pas menacé par Makat Bechorot? Pas pour les juifs évidemment, mais qui d'autre? Pharaon. Pharaon n'est pas menacé. Et donc toutes les illusions, il était Bechor, ben, ça nous fait une belle jambe. Parce que Dieu dit, je vais tuer depuis le Béchor de Pharaon jusqu'au Béchor de la servante, et donc pas Pharaon lui-même.
Quoi ?
Non, mais évidemment que non, mais c'est évident. Mais je veux dire, quand on te dit Pharaon, il était Béchor, il y a eu un miracle, il n'a pas été touché. Non, il devait pas être touché, justement pour qu'il soit le témoin et qu'il puisse nous libérer. Parce que s'il meurt, on a rien gagné. C'est ça ? Donc, מה קורה? והייתה צעקה גדולה בכל מארץ מצרים אשר כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא תוסיף ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו למאיש ועד בהמה למען תדעון אשר יפלה השם בין מצרים ובין ישראל. Qu'est-ce que vient faire les chiens dans cette histoire-là? Eh bien, les amis, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. חזק וברוך.